La première des lectures du jour est le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondée sur les mers et il l'a affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et qui est pur de cœur, celui qui ne livre pas son âme à la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là, celle-là, obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu et de son salut. Voici le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant, même dans les combats. Portes, élevez le volanto, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des batailles, voilà le roi de gloire. Le deuxième passage biblique du jour est tiré du livre de Malachie au chapitre 3, dans les tout premiers versets. « Voici, j'enverrai mon messager, il fraira le chemin devant moi, et soudainement entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on éprouve et comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront tous à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. » La troisième des quatre lectures est tirée de l'Épître aux Hébreux au chapitre 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, Christ, y a également participé lui-même afin que, par la mort, il réduise à rien celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diabolos. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut désormais secourir ceux qui sont tentés. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qu'il est écrit dans la loi. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Shimon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Shimon vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce que la loi ordonnait, Shimon le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur partir en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Je vous en prie, asseyez-vous. Quatre textes du jour aujourd'hui et une question que je me suis posée en lisant les textes du jour, en mettant le focus photographique sur ce personnage dont j'ai gardé le nom hébreu pour que nous ne soyons pas trop habitués ou croire ou penser qu'on le connaît déjà, Shimeon. Et si le vieux Shimeon n'était pas le vieillard que nous propose l'iconographie orthodoxe, ni la peinture occidentale. Si vous allez dans les musées, mais dans les collections de Guy d'Orény à Rembrandt, en passant par Ribérin, Rubens ou Philippe de Champaigne, tous les artistes font de lui le portrait d'un homme vieillissant, qui n'attendrait plus que la venue de Jésus pour passer à l'arme à gauche. La question que je vais me poser avec vous ce matin, c'est une question qui est sous forme d'un dialogue ininterrompu qu'on poursuivra à l'avenir, je l'espère, entre vous et moi, moi qui suis un ami de ce lieu, de son esprit, qui suis un ami de ce nom un peu encombrant quand même de foyer de l'âme, et de son mot d'ordre qui est l'amitié. Vous avez l'habitude de m'entendre prêcher sur des sujets plutôt anthropologiques, en tout cas d'en donner une interprétation anthropologique. Aujourd'hui, je vais me livrer à un petit exercice différent, peut-être une sorte de revue de presse courte, une revue de presse théologique. Je ne sais pas si je vous en donne le premier titre, ça peut être couffu, mais préparez vos oreilles. Dialogue ininterrompu parce que la question centrale que je vais me poser avec vous, c'est celle de l'amitié. Et les quatre textes que vous avez entendus ne laissent pas entendre que c'est le sujet central. Aussi, je vais essayer d'en faire la démonstration, que c'est bien l'amitié qui est au centre de ces textes. Au temple de Jérusalem, un homme, Shimeon, attend le Messie comme on attend Godot. Au temple, il s'assied, il bouge, il se lève, il se nourrit, il va se laver. Et un jour, il voit arriver soudainement un jeune couple, des jeunes parents avec un enfant dans leurs bras. Ses parents montent à Jérusalem, au temple, pour présenter de façon traditionnelle le premier-né de la famille au Seigneur. Avant cela, ils se sont dûment purifiés, ce qui signifie à l'époque que leurs corps d'époux se sont éloignés pendant quelque temps, qu'ils sont allés au mikvé pour se purifier, et ils viennent à Jérusalem pour accomplir le sacrifice prescrit par la loi. Et au moment où ce couple apparaît avec un enfant dans les bras, se passe une rencontre. Le souhait le plus cher de Shimon se réalise, il découvre dans les bras de ce jeune couple le salut. Il va même jusqu'à prendre dans ses bras cet enfant. Il tient dans ses bras le Messie, qu'il reconnaît, comme on embrasse la vérité. Shimon semble depuis longtemps dans cette attente et dans une recherche. Il veut comprendre le sens de la vie, le sens de l'existence, ce qui peut être une démarche à n'importe quel stade de notre existence et qui n'est pas réservé exclusivement aux anciens, anciens dont la sagesse est toujours supposée. Nous avons tous des contre-exemples. Autour de nous, dans nos entourages, il existe de vieux crétins et de vieilles idiotes. Dans la culture, on trouve un exemple de jeune crétin. Par exemple, dans la flûte enchantée, on oppose la figure de Tamino, un prince qui s'en va rechercher la sagesse et qui la trouvera, qui lui sera exposée. Et cette figure de Tamino est contredite ou contrebalancée par la figure mignonne de Papageno, un être couvert de plumes, un drôle d'oiseau, qui n'a de soucis que de lui-même, et son but ultime, c'est de trouver la compagne de sa vie. Après tout, on pourrait se dire, pourquoi pas, c'est déjà pas si mal, de réussir à trouver la personne dans sa vie avec qui on peut passer de beaux jours. Tout le monde ne place pas ses espérances dans les mêmes choses. Certains se plaisent et se complaisent dans le confort matériel. D'autres sont animés et même peut-être agités de questions incessantes. Shimon va être entendu dans sa demande profonde. Il va être exaucé. D'ailleurs, son nom, c'est pour ça que je l'ai gardé en hébreu, signifie cela. Il est entendu, il est exaucé. Dieu lui accorde ce que son cœur a toujours désiré, trouver une lumière, une révélation, reconnaître le salut, reconnaître la grâce, et trouver, nous dit ce passage de Luc, je n'ai pas cité que c'était l'évangile de Luc, pardonnez-moi, la sainteté et la justice. Ce passage de l'évangile, il est éclairé par les autres textes que j'ai lus. Quand nous entendons « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire puisse faire son entrée. » C'est le psaume 24. Cela sonne à mes oreilles comme une invitation à élever son âme, rehausser sa température de vie, à repousser les limites de sa pensée, à élargir ses horizons. Dans ce même psaume, cette destinée est accordée à ceux qui ne livrent pas leurs âmes à la fausseté. Il faut passer ses pensées au creuset du feu pour séparer les métaux purs de leur scorie, aussi dans le texte de Malachi. L'or, l'argent sont les symboles de la stabilité, de l'esprit, de la constance et de ces autres vertus que sont la persévérance et la foi dans l'avenir. Aussi, dans ce texte, ou dans ces textes, il y a une grande distinction qui se fait entre des opinions d'une part et des convictions d'autre part. Des convictions qui sont basées sur des principes solides et des vertus travaillées. Aujourd'hui, il m'arrive d'enseigner et je suis désolé de voir que dans cette génération jeune, ils ne sont plus exposés aux grands textes latins où ces vertus sont largement exposées et développées. C'est un manque parce qu'on ne les retrouve pas ailleurs dans la société, rarement dans la publicité. Et ces vertus, ces grands principes fondateurs sont quand même un socle sur lequel nous pouvons édifier un édifice spirituel. C'est un lieu commun, tout est opinion et dans les médias sociaux s'ouvrent d'infinies discussions sur tout et rien, tous les sujets, même les plus complexes. Chacun et chacune ici ou dans la rue serait non seulement autorisé, mais constamment invité à s'exprimer, à donner son avis. Cela fait fi des compétences et des expertises, du travail laborieux de tant de chercheurs qui, eux ou elles, nous livrent des analyses et des résultats provisoires, prudents, temporaires, susceptibles d'être remis en cause. La manifestation de la vérité, expression que l'on trouve dans le domaine juridique, mais que l'on pourrait étendre à d'autres disciplines, était la base d'un consensus minimal pour que l'on puisse s'entendre et se comprendre, et même vivre ensemble. Et donc, dans cette démultiplication des opinions, dit avec des grands mots souvent, des mots qui dépassent leur pensée, on est confronté à la fragmentation de la vérité. le consensus est brisé. Et cela a des conséquences sur nombre d'aspects de notre vie. Je pense à quelques exemples, puisque je disais que c'était une revue de presse. Elle n'est pas forcément immédiate, mais il y aura un exemple fort que je voudrais vous donner. Excusez-moi. Par exemple, le refus individuel de vacciner des cohortes d'enfants a des conséquences sur la bonne santé d'une population locale tout entière. Ou alors on trouve des propositions pseudo-scientifiques qui exercent une pression forte sur les enseignants. L'éducation nationale est mise en cause par ses propres élèves, puisqu'ils entendent et finissent par croire, par exemple, que la Terre serait un disque plat. Cela revient, pas seulement aux États-Unis, pays exotique à nos yeux, même en France. Certains chrétiens, certains croyants osent contester ce qui fait consensus jusqu'à aujourd'hui, sans preuve autre que quelques passages de la Bible tirés comme des brins de paille. Cette multiplication des accros au consensus, ce refus insouciant à consentir, fragmente lentement nos sociétés humaines. On ne se trouve pas au bord du chaos, rassurez-vous, en tout cas c'est ma conviction, parce qu'il y a la résistance des partisans de la raison et de la prudence. On n'est pas non plus au bord de l'anomie sociale. Il y a encore des citoyens solides pour tenir bon et des croyants aussi fermes dans des résultats, dans des interprétations de la Bible qui ont été communément entendues et acceptées. Un des derniers exemples que j'ai entendu dans la presse qui montre que ce monde tendrait à devenir un monde de Papageno et de Papagena, c'est le projet de loi qui est passé devant l'Assemblée nationale et que le parti qui soutient l'actuelle présidence de la République a refusé de voter. Il s'agissait de donner des jours de congé plus nombreux à des parents qui perdent un enfant. C'est quand même quelque chose de scandaleux. On sait que ce deuil est le deuil qui ne porte pas de nom. On ne pose pas de mots sur ce deuil, c'est impossible, et on connaît le traumatisme des parents qui ont perdu un enfant. Eh bien, pour des raisons comptables, pour des logiques financières, la ministre en charge, Muriel Pénicaud, a demandé à ce parti de ne pas voter ces fameux 12 jours de congé. Et les raisons qu'elle invoque, ou en tout cas la raison qu'elle invoque, c'est qu'on ne peut pas faire peser sur les entreprises le coût de cette mesure. Les entreprises sont des lieux importants, mais ne sont pas des lieux de vie. Ce sont que des aspects de nos vies. Nous donnons du travail, mais nous pouvons donner du travail en dehors de nos entreprises. Scandale, disais-je. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, c'est peut-être un petit peu rabbinique comme un monde ordinaire. Hein. Mais moi, j'y vois un exemple de la fausseté du cœur. Il n'y a pas forcément de la méchanceté, du mauvais, du mal dedans. Mais être hésitant sur une telle mesure me semble être du domaine de l'errance. Errance qui est dénoncée dans les textes de ce jour. Aussi, sortons de cette tromperie, sortons de cette illusion. C'est une autre traduction possible de certains mots des textes du jour. Pour revenir à ce qui est fondamental, pour revenir aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je ne veux pas y mettre ici une nostalgie du passé, autrement dit que tout était mieux avant, mais plutôt cette fidélité aux principes forts qui tiennent ensemble une société, jusqu'à ce que les membres de cette société, collectivement, tous ensemble, décident éventuellement de les faire évoluer. Dans l'épisode l'Épître aux Hébreux, l'auteur fait allusion au diabolos, à celui qui crée de la division, division intérieure et donc division entre les personnes, au doute, au désarroi, ce qui livre les individus à leur propre opinion, à des idées fragiles, versatiles. Ce mot grec « diabolos », il faut bien se garder de le traduire, sinon nous risquons de faire revenir des images moyenâgeuses. Il s'agit bien de la confusion, de la fragmentation, de ce qui sépare, de ce qui divise. Et peut-être le savez-vous déjà, on oppose « diabolos » à « symbolos », à ce qui nous rassemble, à ce qui nous unit. Et le verset de Malachi nous le dit, « Voilà le partage de la génération qui invoque Dieu, de ceux qui cherchent sa face et de ceux qui trouvent sa face comme Shimeon. » La sphère spirituelle n'est pas épargnée par cette errance, ce diabolos, les assauts conjoints du matérialisme et l'individualisation des pratiques spirituelles nous mettent en danger tous. Je ne ferai pas encore un inventaire ici fastidieux, mais je reprendrai l'exemple de l'enseignement où l'étudiant d'autrefois, révérencieux face à ses professeurs, qui étaient chargés, ou en tout cas supposés leur délivrer de quoi se construire pour l'avenir, sont aujourd'hui devenus de petits consommateurs stratèges qui comptent leurs coefficients et leurs UV pour savoir à quel moindre frais ils vont obtenir des titres et des diplômes pour pouvoir mener une carrière brillante ou fantasmée. Dans le religieux, j'aimerais revenir à la formule d'Alfred Loisy en pensant à Shimeon. Jésus a annoncé le royaume et c'est l'Église qui est venue. Nous avons besoin constamment de toiletter nos églises, de réfléchir ensemble, de confronter nos opinions et nos convictions ensemble pour pouvoir procéder à ce toilettage, réactualiser nos églises, nos assemblées, c'est pas facile. Et nous devons faire corps pour lutter et être audibles dans la société avec laquelle nous sommes intriqués. Nous sortons d'ici, nous retournons à nos activités profanes, mais nous emportons avec nous nos valeurs et nos principes fondamentaux. Il y a des risques auxquels nous sommes collectivement confrontés. Ce n'est pas parce que je suis anglican que vous êtes réformé, que d'autres sont d'autres dénominations, que nous ne sommes pas concernés. Nous devrons faire voix ensemble contre les crimes pédophiles qui ont été exposés au grand jour. Nous positionner, parce que ces crimes ne concernent pas telle ou telle chapelle, mais elles rejaillissent sur l'ensemble de notre réputation, des valeurs et des vertus que nous portons. Un de mes amis à Marseille, qui est prêtre dans une très grosse paroisse, a constaté qu'il avait perdu 10% de ses paroissiens du fait de la défiance, du dégoût dans le traitement de cette affaire de pédophilie que l'on a connue et qui se poursuit aujourd'hui au travers de procès. Pour prendre un exemple plus léger, j'ai cité l'histoire de la Terre plate. On peut toujours sourire quand on entend ici et là qu'un pasteur évangélique américain a voulu s'amuser avec des serpents pour bien sûr montrer qu'il était sans risque puisqu'il avait une foi qui le protégeait. Évidemment, la morsure venimeuse est mortelle. On peut en sourire. Mais dans les facs de théologie, dans les églises, dans les lieux d'assemblée, on trouve de plus en plus de ces attitudes extravagantes et de ces opinions extravagantes. Autre exemple, il y a des clergés qui utilisent des méthodes paramilitaires pour la guérison. Nous avons tous dans nos corps des épines, des souffrances, des douleurs, des pathologies, et on sait à quel point c'est difficile de lutter tout en gardant la foi, la confiance, l'espérance rester debout, solide. Eh bien, je considère que ces gens qui pratiquent des guérisons sont des paramilitaires, ce ne sont pas des chrétiens. Il faut arrêter leurs bras, comme Jésus a arrêté le bras de Pierre tenant l'épée contre le soldat romain. Et c'est aussi, et ça plus principalement, une insulte faite à la prière. J'allais dire même un blasphème contre le Saint-Esprit. Une insulte à la prière parce que c'est faire insulte à ces millions de prières qui ont monté de millions de cœurs pour demander la guérison d'un cancer, pour demander la rédemption et la fin des souffrances pour des milliers, des millions de gens dans le monde. Que faisons-nous de leurs prières ? Est-ce à dire que leurs prières ne valent rien, qu'elles sont en bois ? Est-ce à dire que le Saint-Esprit ne fait pas son job ? Aussi, nous devons encore nous lever contre ces opinions qui sont dites haut et fort avec une fierté insupportable. Où est passée l'humilité évangélique dans tout ça, au milieu de ces gens ? J'en viens à mon thème principal, je pourrais développer bien d'autres exemples. Shimeon, maintenant, il peut partir en paix. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir. C'est-à-dire que son chemin va changer de vie, va changer de perspective, de trajectoire. Rien ne dit qu'il va mourir immédiatement après. Donc nous pouvons tous, d'ailleurs même femmes, être des Shimeons. Retrouver le sens de sa vie au travers des principes fondateurs, ceux qui nous ont été inculqués et ceux que nous découvrons et développons. Nos églises, nos assemblées ont pour mission d'être des maisons de prière, d'être aussi des centres de service. Et je voudrais convoquer un texte, et j'en suis désolé, c'est une méthode théologique contestable, que je n'ai pas lu. L'Évangile selon saint Jean au chapitre 15. Celui-là même où nous est donné le commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Mais il y a une phrase qui est passée un petit peu à l'as, ou en tout cas qui est peu exploitée dans nos communautés. C'est « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et le Christ poursuit, s'expliquant, disant « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle désormais ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que mon Père m'a enseigné. » Ici, je sais d'où je parle, je sais où je parle. C'est le foyer de l'âme. Et si vous ouvrez les archives du foyer de l'âme, si vous lisez les livres qui ont été édités, les textes du pasteur Wagner, qui m'émeuvent toujours dans leur sobriété et leur fraîcheur un petit peu presque campagnarde. Il y a deux textes que j'aime beaucoup, écrits entre 1906 et 1915, vous les trouverez facilement. Il dit d'une part en 1906 « Offrons donc à l'amitié un asile, afin qu'elle ne ressemble pas aux hôtes d'un jour. » Il faut donc construire, selon les vœux du pasteur Wagner, un foyer de l'âme, de l'amitié, un asile pour accueillir tous les amis potentiels, ceux qui sont déjà là et ceux qui sont amenés à nous rejoindre. Et Charles Wagner développe ailleurs sa pensée. Il est apparemment souffrant, il commence ce texte comme cela. « Souffrant, je garde la chambre et je médite. Quels bons amis Dieu m'a donné. Hymne à l'amitié, aux vivants, aux morts. Les uns adoucissent ce côté, les autres me sourient de la rive immortelle. Jamais les uns et les autres ne me semblent plus précieux et plus près de moi que dans les grandes peines et les petites misères. Quels bons enfants Dieu m'a donné. Je ne puis penser à chacun d'eux sans le remercier à genoux. Qu'il garde les vivants dans sa paix et dans le chemin droit de la bonté et de l'énergie, et qu'il me permette de penser avec une tendre et douce espérance à celui qui est allé nous précéder dans la patrie éternelle. » Je ne demande pas à comprendre. Comprendre est à des hauteurs trop élevées pour notre esprit et trop basses pour la réalité. Pourvu que dans les passes douloureuses, tu me rafraîchisses de ta rosée, afin que je puisse de ta part et en ton nom rafraîchir mes frères avec ce que tu m'as donné. Voilà ce Charles Wagner que nous aimons. Un homme dans une piété simple et noble, modeste et toujours d'actualité. De la même manière que Siméon est entendu, exaucé dans ses attentes intimes que nous ne connaissons pas. Nous voulons nous aussi être entendus, exaucés. Nous voulons être, à la manière de Charles Wagner, des chrétiens simples. Et si nous poussons ce raisonnement, mieux que des frères et des sœurs, des amis et des amies. Des amis ensemble, et puis puisqu'Abraham est appelé l'ami de Dieu et que nous sommes des enfants d'Abraham, que nous soyons des amis de toute l'humanité. Vous l'avez pratiqué ici sous toutes ses formes, du pot de l'amitié au bulletin de l'amitié, avec le dialogue interreligieux, interculturel. Voilà, vous pratiquez l'amitié et c'est ce que nous avons besoin tous ensemble de développer dans nos églises. Non seulement la foi, au travers de la prière et de la musique, non seulement le service, mais l'amitié. J'ai une pensée toute particulière pour Frédéric qui est arrivé, parce que je la connais depuis très longtemps au foyer de l'âme. Et Frédéric, je voulais vous transmettre mes amitiés. Vous êtes une sœur en Christ pour moi, mais plus que ça, vous êtes une amie au travers de ce lieu et au travers de votre présence. Et cette prédication, je vous la dédie tout particulièrement. Merci Frédéric pour votre amitié en retour. Amen.